Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bourumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 13 mars 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Assassinat des officiers iraniens en Syrie, le régime sioniste exprime sa peur de la réponse de l'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, un certain nombre d'officiers du Mossad ont été tués et blessés lors d'une attaque au missile ce dimanche sur Erbil, selon les sources irakiennes. Macron et Poutine se sont échangés sur le JCPOA. Les présidents français et russes se sont entretenus par téléphone sur l'accord nucléaire de 2015. Et puis, aucune date n'a été fixée officiellement pour les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais le ministre irakien des Affaires étrangères évoque la date du 16 mars. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Un certain nombre d'officiers du Mossad ont été tués et blessés lors d'une attaque au missile sur Erbil, selon des sources irakiennes. Des sources d'information irakiennes ont cité des responsables informés disant qu'un certain nombre d'officiers de Mossad ont été tués dans une attaque au missile contre une base d'espionnage sioniste à Erbil. Des sources d'information irakiennes ont cité des sources de sécurité disant qu'un certain nombre d'officiers de Mossad ont été tués et blessés lors d'une attaque à la roquette contre le siège d'espionnage du Mossad à Erbil, dans la région du Kurdistan, sur la route Massif Salah-ed-Din. La base du Mossad sur la route Massif Salah-ed-Din a été complètement détruite et un certain nombre de mercenaires sionistes ont été tués et blessés, a également rapporté Al-Mayadin. Le ministère irakien de la Santé a annoncé qu'aucun civil n'a été tué ni blessé lors des attaques à la roquette contre Erbil. La direction de l'aéroport international d'Erbil a également informé que les vols se poursuivraient normalement et a déclaré que les informations publiées sur le ciblage de cet aéroport étaient fausses. 12 missiles ont été tirés sur le siège du Mossad à 12 heures ce matin dimanche. Macron et Poutine se sont échangés sur le JCPOA. Les présidents français et russes se sont entretenus par téléphone sur le sujet du PGAC, l'accord nucléaire de 2015. Lors de cet entretien téléphonique, le président Macron a demandé à son homologue russe, Vladimir Poutine, de faciliter le procès des négociations de Vienne sur le dossier nucléaire iranien. L'Élysée n'a pas commenté la réponse de Poutine, ni s'il a fourni un calendrier pour déterminer la position de la Russie. Le palais présidentiel français n'a pas donné plus de détails sur les pourparlers Macron-Poutine. Les pourparlers à Vienne sont en cours et ces derniers jours, ces négociations ont atteint des étapes importantes et critiques. L'Occident estime que la Russie n'a pas encore pris sa décision sur l'accord nucléaire et sa relance en utilisant un certain levier, tandis que le résultat final dépendrait de la décision politique américaine. L'Iran a rendu sa conclusion finale sur les négociations et l'a présentée à l'autre partie, et l'accord final dépend de la décision de l'autre partie, en particulier des États-Unis. Iran, Azerbaïdjan, il existe de nombreuses perspectives pour un partenariat bénéfique bilatéral. Dans son message de félicitations à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le président azerbaïdjanais a déclaré « Je crois qu'il existe aujourd'hui de nombreuses perspectives de développement pour la coopération mutuellement bénéfique entre Téhéran et Bakou ». Dans un message adressé au président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a félicité le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Je vous félicite cordialement ce jour important partagé entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. J'adresse mes meilleurs vœux à la nation amie et frère de l'Iran à cette occasion, a écrit M. Aliyev dans son message. La volonté de nos nations, qui puise ses racines dans les affinités religieuses et culturelles, est le fondement principal des relations entre la République d'Azerbaïdjan et l'Iran, qui sont basées sur le respect mutuel et le bon voisinage. Le niveau élevé des relations amicales aujourd'hui est le résultat des activités conjointes de nos deux pays au cours des 30 dernières années. Au cours de ces années, de nombreux déplacements réciproques, des documents signés, des accords conclus et des projets communs ont joué un rôle important dans le développement de notre coopération dynamique dans divers domaines politiques, économiques, transports, énergétiques, culturels et autres, lit-on dans le message du président Aliyev. Aucune date n'a été fixée pour les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Certains médias ont affirmé que les négociations entre l'Iran et l'Arabie saoudite avaient été temporairement suspendues. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a annoncé que le cinquième cycle de pourparlers irano-saoudiens se tiendra à Bagdad mercredi 16 mars. Plus tôt, Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avait déclaré prêt Téhéran toujours à poursuivre les pourparlers et que le prochain tour dépendrait de la décision de Riyad. Pour la première fois en mai 2021, le président irakien Barham Saleh a annoncé que l'Irak accueillerait des pourparlers irano-saoudiens, voire le dialogue direct entre les deux pays après des années de relations tendues. Jusqu'à présent, Bagdad était l'hôte de quatre séries de ces pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a environ un mois, Qassem al-Araji, conseiller à la sécurité nationale de l'Irak, qualifiant d'important le cinquième cycle des pourparlers entre les autorités iraniennes et saoudiennes à Bagdad, a déclaré que ces négociations conduiraient à la réouverture des ambassades des deux pays. L'Iran et le Qatar soulignent la nécessité de poursuivre les accords conclus lors des pourparlers de Doha. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar et le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran ont souligné la nécessité de poursuivre sérieusement les accords conclus lors de la récente rencontre du président de la République islamique d'Iran et de l'émir du Qatar au pourparlers de Doha. Lors d'une conversation téléphonique, le ministre qatari des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed Ben Abdel Rahman Al Sani, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, ont discuté des derniers développements bilatéraux, régionaux et internationaux et des pourparlers de Vienne. Concernant les pourparlers de Vienne, Amir Abdollahian a fustigé les États-Unis pour avoir soulevé de nouvelles questions et a souligné que la République islamique travaillait sérieusement pour parvenir à un accord ferme et durable. La diplomatie iranienne au service de l'économie nationale. La diplomatie était et sera toujours au service de l'économie iranienne et les jeunes peuvent définir de nouvelles frontières et de nouveaux horizons dans ce domaine, a déclaré samedi le vice-ministre et porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Saïd Khatibzadeh, en visite à l'usine d'innovation de la ville de Mashhad au nord-est, samedi soir 12 mars, a déclaré aux journalistes Le gouvernement doit faire beaucoup de travail dans le domaine de l'aide aux jeunes pour que les frontières de la connaissance s'étendent parallèlement au deuxième pas franchi par la révolution islamique qui a plus de 43 ans. Il a souligné « La connaissance est un indicateur de l'autorité, du pouvoir et de l'activisme de l'Iran islamique dont une partie consiste à aider les cycles économiques ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a poursuivi « En tant qu'appareil diplomatique et ministère des Affaires étrangères, nous aiderons les jeunes et les élites actives dans les centres d'innovation à entrer dans l'arène de la concurrence mondiale et cela par le levier de la diplomatie ». Enfin, manifestation turque contre la visite d'Erzog, nous sommes tous, Rassem Soleimani, retentis. Le peuple turc a condamné la visite du président israélien Isaac Herzog à Ankara en organisant un rassemblement de protestation. Nous sommes tous, Rassem Soleimani, pouvait-on l'entendre parmi les slogans scandés à foison par les manifestants. Ils pointaient tous de crimes et des exactions du régime sioniste du doigt. Selon le rapport du samedi matin 12 mars de l'IRNA, citant des sources d'information, les manifestants portant en main des drapeaux du Hezbollah libanais, d'Ansar Allah du Yémen et des photos du général martyr iranien Rassem Soleimani ont scandé « Abat l'Amérique, Abat Israël et salut au djihad, salut au Hezbollah », manière de protester contre la visite de Herzog en Turquie. En juillet, Erdogan avait félicité par téléphone Herzog pour sa désignation à la présidence de l'entité sioniste. On dit que cet appel téléphonique, passé après des années de haut et de bas, a ouvert la voie à la visite de cette haute autorité du régime usurpateur en Turquie. Cette visite controversée en Turquie, dont le chef de l'État se faisait ces dernières années l'ardent défenseur de la cause palestinienne, a suscité la colère à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Assassinat des officiers iraniens en Syrie. Le régime sioniste exprime sa peur de la réponse de l'Iran. Les médias arabes ont rapporté que la crainte des responsables sionistes de la réponse de l'Iran au martyr de deux de ses officiers supérieurs en Syrie a été exprimée par une réunion d'évaluation de la situation tenue vendredi. Selon l'IRNA, citant la chaîne libanaise Al-Mayadeen, lors d'une réunion sécuritaire, les responsables sionistes ont évalué la situation aux frontières nord des territoires occupés, surtout dans la zone occupée du plateau du Golan. Lors de cette réunion, les responsables israéliens ont discuté de la possibilité d'éventuelles représailles iraniennes et ont exprimé leur inquiétude. L'armée sioniste est en alerte depuis le 8 mars suite à l'attaque contre la Syrie et au martyr de deux officiers supérieurs du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, craignant une éventuelle riposte iranienne aux crimes perpétrés. Rui Charon, analyste militaire de la chaîne en hébreu Khan, a déclaré que l'armée israélienne est en état d'alerte maximale à la frontière nord par crainte d'une éventuelle réponse iranienne à une récente attaque à la périphérie de Damas, qui a tué deux Iraniens. Plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait condamné l'attaque au missile israélien à la périphérie de Damas, qui a abouti au martyr de deux officiers du CGRI. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que la réponse à de tels crimes contre l'humanité du régime d'apartheid est l'un des principaux objectifs de la résistance dans la région. Le 7 mars 2022, le département des relations publiques du corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé la mort en martyr de deux gardiens de la révolution islamique lors d'une attaque criminelle à la roquette par le régime sioniste à la périphérie de Damas.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 12 mars 2022. Plus de deux semaines après le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entre Moscou et Washington prennent de nouvelles dimensions. Les deux pays, en effet, s'opposent dans un différend sur de présumés laboratoires biologiques en territoire ukrainien. Moscou accuse le Pentagone d'avoir financé un programme d'armes biologiques sur le territoire ukrainien, affirmant avoir en sa possession des preuves en ce sens. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a qualifié en effet d'absolument scandaleux des faits sur ce que fait le Pentagone, en effet, sur le territoire ukrainien. Il a accusé Washington d'utiliser le territoire ukrainien pour mener des expériences sur des agents pathogènes qui peuvent être utilisés pour créer en effet des armes biologiques. La Chine également a demandé aux États-Unis en effet de donner des explications sur les détails de ses activités dans les laboratoires ukrainiens. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle révélation en effet sur les activités secrètes du Pentagone en Ukraine et une éventuelle, en effet, révélation de ces activités. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Moscou accuse Washington de mener un projet de transfert de maladies mortelles par les oiseaux vers la Russie via l'Ukraine. Les services de renseignement américains ayant admis avoir aidé à la recherche biologique. La directrice du renseignement national américain, Avril Haines, a confirmé le jeudi 10 mars que l'Ukraine exploite plus de 10 laboratoires biologiques liés à des projets de défense et de santé, notant que le gouvernement américain a fourni à Kiev une assistance dans le domaine de la sécurité biologique, a-t-on appris dans un rapport publié dans le numéro du 10 mars du journal en ligne Rayalium. L'Ukraine exploite plus de 10 laboratoires biologiques et ces laboratoires travaillent sur des projets de défense et de réponse sanitaire, a affirmé Haines lors d'une audition au Sénat américain. L'objectif de ces recherches biologiques financées par le Pentagone était de créer un mécanisme de propagation furtive de pathogènes meurtriers, a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Konachenkov. Selon les documents, la partie américaine prévoyait de travailler sur la transmission d'agents pathogènes par les oiseaux, les chauves-souris et les reptiles en Ukraine en 2022, avec une future initiative pour étudier la possibilité de transmettre la peste porcine africaine et aussi l'anthrax. Le porte-parole a annoncé que le ministère russe de la Défense avait l'intention de publier un autre paquet de documents sur les activités biologiques secrètes des États-Unis en Ukraine. Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire spéciale dans la région du Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, suite à la demande officielle des républiques de Donetsk et de Lugansk pour le soutien de la Russie face aux forces ukrainiennes. Poutine a souligné que la Russie ne prévoyait pas d'occuper le territoire ukrainien, expliquant que l'objectif est de protéger les personnes qui, pendant 8 ans, ont été victimes de persécutions et de génocides par le gouvernement de Kiev. En outre, les pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne, ont adopté ces derniers jours un ensemble de sanctions économiques sévères contre la Russie dans le but de faire pression sur Moscou et le contraindre à arrêter l'opération militaire en Ukraine.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Et depuis Alsace avec Maître André Chamy, lui aussi juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et mes salutations à toute l'équipe.
Maître Chamy, comme vous le savez, alors la tension entre les États-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine est entrée ces derniers jours dans une nouvelle phase au sujet, en effet, d'implantation des laboratoires de recherche biologique qui seraient, dans l'optique de Moscou, des sites américains pour créer des armes biologiques. Pour Washington et Kiev, là, il s'agit d'un instrument de la propagande russe. Mais de nombreux experts, en effet, estiment que les États-Unis craignent la révélation de ces activités secrètes en territoire ukrainien. Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui, justement, au sujet de ces présumés laboratoires biologiques? Qu'est-ce qui fait peur aux États-Unis et à l'Ukraine?
La question n'est pas de savoir ce qui fait peur, parce que maintenant, il y a une révélation de deux sources officielles américaines qui confirment la coopération américaine, pour ne pas dire l'implication directe américaine dans la création et dans le développement et dans le fonctionnement des laboratoires, c'est-à-dire des laboratoires qui travaillent sur la guerre bactériologique. On peut l'appeler comme on veut, hein. On parle du dit laboratoire, mais en réalité, selon les informations qui ont pu être obtenues au fur et à mesure, on est à plus de 300 établissements. Alors, je dirais plus ou moins grands, plus ou moins importants, mais avec chacun son rôle pour justement répartir la question de la recherche, mais en même temps répartir les informations là avec une centralisation. C'est comme ça que ça se fait. Et à partir de là, la question qui se pose maintenant, je me pose même moi la question, pourquoi aujourd'hui en Occident, personne n'en parle, si ce n'est de répéter à tout bout de champ que nous sommes dans le cadre de la propagande Poutine, mais en réalité, aujourd'hui, avec les deux sources officielles, il y a les services de renseignement, mais également Mme Noland devant le Congrès qui confirme cette information-là. Et ces deux informations-là, devant la représentation nationale américaine, il n'y a pas pire, si j'ose dire, pour porter des accusations contre les Américains et même apporter la preuve des allégations russes. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Américains, avec ces laboratoires-là. Et à mon sens, nous sommes aujourd'hui, mais en tout cas, moi, c'est ma position. Je me demande si M. Poutine n'était pas informé sur ces situations-là et a voulu, en quelque sorte, profiter de ce qui se passe sur le plan intérieur ukrainien, c'est-à-dire ces attaques contre les russophones dans les différentes régions et les massacres qui ont été commis contre cette population-là, pour également pousser ces troupes un petit peu partout dans le sens de découvrir ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que quand vous avez des sources de renseignement avec des établissements de ce type-là, il faut obtenir plus de précision. Et le fait d'aller plus loin et d'aller un petit peu partout démontre qu'il y a une volonté quand même de savoir ce qui se passe, et notamment par rapport à cette découverte que l'on considère comme une découverte, mais apparemment les services de renseignement russes qui avaient porté à la connaissance de M. Lavrov et bien entendu à M. Poutine l'existence de ces laboratoires-là, et ça n'a pas été découvert au moment de l'avancée des troupes. À mon avis, ces informations existaient avant, nécessitaient confirmation, et c'est ce qui vient d'être fait par les Américains, parce que maintenant, si je veux dire, ils se font attraper avec la main dans le pot de confiture, comme on dit en français. Et là, ça devient grave, parce que nous sommes passés à un stade supérieur, parce que là, ce n'est pas dans le cadre de l'idée de faire peur. Là, on est dans le cadre d'une véritable action de guerre menée à partir d'un territoire proche de la Russie, avec des visées beaucoup plus graves, c'est-à-dire une extermination de la population russe, et voire plus, c'est-à-dire va aller au-delà, parce que ce genre de bactériologie, de bactéries, n'est pas limité à une frontière, c'est-à-dire on peut imaginer ce qui peut se passer derrière, jusqu'à la Chine, et autour. A eu raison de se mettre en colère, si je me suis fait ainsi, pour dire maintenant, donnez-nous les explications. Ça démontre deux choses. D'abord, le sérieux de l'information, la réalité de cette information-là, mais en même temps, les craintes de ce que pouvaient en faire les Américains. Et là, les Américains sont embarrassés, et évidemment, maintenant, ils parlent de crimes commis sur le terrain, et on détourne l'attention du vrai problème. Parce que là, nous ne sommes pas par rapport à des actions qui sont menées dans le cadre d'une action militaire, nous sommes dans le cadre de préparatifs d'une véritable guerre bactériologique qui aurait pu être menée à partir du territoire ukrainien, sans être obligé d'impliquer l'Ukraine dans l'OTAN, voire même mieux, ne pas les introduire dans l'OTAN ou dans l'Europe. Et à ce moment-là, on va dire, les Ukrainiens ont réglé le compte des Russes à cause de la région du Donbass ou à cause du Crimée. Mais le problème est beaucoup plus grave. Et à mon avis, là, maintenant, on est franchement très proche de quelque chose de majeur. Tout le monde a parlé de Troisième Guerre mondiale. Pour moi, c'est un motif de Troisième Guerre mondiale. Et là, il y a tout à craindre par rapport aux conséquences. Je ne dis pas qu'on va basculer vers la Troisième Guerre mondiale, mais je dis, là, c'est un véritable motif. Ici, les documents officiels pouvaient démontrer que, effectivement, nous étions, enfin, les Ukrainiens et les Américains étaient dans le cadre des préparatifs par rapport à une attaque en règle à travers une guerre bactériologique ukrainienne pour attaquer la Russie. Là, ça deviendrait beaucoup plus à demander que des explications, parce qu'à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'Occident qui devrait y répondre, et d'ailleurs les opinions publiques européennes particulièrement, qui se trouvent aujourd'hui du côté ukrainien, parce que soi-disant c'est le côté le plus faible, maintenant ils devraient demander beaucoup plus de cette action bactériologique qui aurait pu nous entraîner dans une guerre d'ailleurs plus grave et avec des conséquences en termes d'extermination nettement plus importantes que ce qui se passe actuellement.
Merci. Merci infiniment pour ces précisions. Maître Chamy, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour à Maître Chamy.
Maître Chamy l'a rappelé, en effet, cette révélation par deux sources officielles américaines, dont numéro 3 de la diplomatie américaine sur l'existence des laboratoires biologiques en Ukraine. Bien sûr, c'est site américain pour créer, en effet, des armes biologiques. Donc là, on pourrait dire que, contrairement à ce que prétendent les milieux politiques et médiatiques en Occident, l'intervention russe était en quelque sorte pour neutraliser cette guerre américaine. Et puis, quelles en seront les conséquences, c'est-à-dire les conséquences de la révélation, en effet, de cette guerre bactériologique américaine à l'encontre de la Russie, mais aussi de la Chine?
Alors tout d'abord, il faut rappeler rapidement que les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, après avoir, au travers de l'opération Paperclip, rapatrié beaucoup de scientifiques nazis spécialisés dans les agents pathogènes en question, ils avaient l'unité 731 qui faisait la même chose avec les scientifiques japonais. Donc les Américains travaillent sur la guerre biologique depuis des décennies. Et à l'aune de l'effondrement de l'Union soviétique, on peut penser que le Pentagone a pris un intérêt certain à essayer, dans sa politique d'extension et de facilitation de l'extension de l'OTAN vers les frontières russes, utiliser ces laboratoires au travers de certains financements occultes pour pouvoir, dans ce que Anthony Fauci appelle le gain of function, modifier des agents pathogènes avec pour visée effectivement de pouvoir les utiliser ultérieurement dans un contexte stratégique, à défaut de conventionnel. Maintenant, effectivement, le secret de Polichinelle est sorti. Victoria Nuland, même si on peut penser que son audition devant le sénateur Marco Rubio a été scriptée par avance parce qu'il savait que les Russes avaient mis la main sur les documents, intercepté des communications, dont celle du ministre de la Santé ukrainien qui avait appelé à la fermeture des laboratoires et le prélèvement des agents pathogènes qui s'y trouvaient, l'Agence mondiale pour la santé, l'OMS, avait, alors la date on ne l'a pas, mais celle du ministre de la Santé ukrainien était aux environs du 24-25 février. L'OMS avait aussi demandé en urgence que les éléments pathogènes dans ces laboratoires soient évacués. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut penser que cette propagande américaine visant à décrédibiliser les éléments fournis par les Russes, les documents fournis par les Russes, par le ministère de la Défense russe, comme étant de la propagande, vise en fait à essayer de faire obstruction, d'offusquer, enfin d'occulter, si je puis dire, la bombe qui est en train de détonner. On a eu une conférence au Conseil de sécurité hier, où effectivement les Chinois et les Russes ont mis l'accent sur cette affaire. Il faut savoir qu'il y a environ pas moins de 200 laboratoires dans 30 pays de ce type, que les agences de santé mondiales sont plus ou moins dépendent du niveau de leur financement d'oligarques américains qui verrouillent tout. Et on peut penser dans ce contexte qu'effectivement quelque chose se préparait à l'encontre de la Russie. Et c'est pourquoi, entre autres, Inter Alias, et au-delà du fait que l'existence de ces laboratoires, s'il est avéré qu'il y avait des recherches de gain of function sur ces pathogènes, est une violation effectivement de la convention sur les armes chimiques et bactériologiques. Mais enfin, ça, c'est, on n'est pas à ça près avec les Américains. Et là, c'est tout le narratif en fait qui s'écroulerait pour les Américains et qui laisserait entendre que et la Chine et la Russie ont toujours eu la position correcte sur le fait qu'il n'a jamais été question pour l'OTAN de chercher à trouver un moyen de coexistence entre les sphères, mais que quelque chose se prépare. Et donc ça, le temps nous dira, en fonction de des informations et des révélations qui, à mon avis, vont continuer à arriver. On est qu'au tout début de ce processus-là.
Merci pour ces éclairages, Maître Develle, restez avec nous. Maître Chami, quelles seront les répercussions de ces révélations alors au sein des instances internationales, des agences de santé, des organisations multilatérales, du Conseil de sécurité de l'ONU, les répercussions, mais aussi en effet politiques, et les répercussions sur le terrain dans le conflit qui oppose en effet la Russie à l'Ukraine, mais aussi à ses alliés occidentaux?
Moi, aujourd'hui, en toute objectivité, en tant que observateur de la situation, aujourd'hui, je ne peux plus dire qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes face clairement à une guerre entre la Russie et les États-Unis. Parce que l'implication des États-Unis est tellement forte qu'aujourd'hui, il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, aux Américains de se cacher par rapport à cette responsabilité-là. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, ils poussaient, entre guillemets, les Ukrainiens à aller jusqu'au bout dans leur démarche, parce que pour eux, il fallait à ce moment-là les coincer, les Russes, pour soit ils mènent une guerre, à ce moment-là, ils sont dans la situation de coupable, ou bien ils ne mènent pas la guerre, et à ce moment-là, évidemment, la question qui se pose, ce sera leur sécurité, aussi bien la sécurité sur le plan russophone, si j'ose dire, mais le problème beaucoup plus grave, encore une fois, c'est la population russe. Et aujourd'hui, il faut que le monde entier le sache, et que cette information soit portée à la connaissance de l'ensemble du monde, avec des précisions, avec des éléments d'enquête, parce que me semble-t-il, la situation est particulièrement grave. Nous ne sommes pas face à un épiphénomène, c'est-à-dire une question d'espionnage ou d'un problème de service de renseignement. Là, nous sommes dans une action très avancée dans le cadre d'une guerre bactériologique à la frontière d'un pays tel que la Russie, et avec derrière la Russie l'ensemble des pays qui se trouvent, si j'ose dire, dans l'axe de la Russie, voire jusqu'à la Chine. Ça, c'est quelque chose qui me paraît gravissime, et à un moment donné, les Américains devraient répondre de leurs actes. Soit ils s'expliquent et ils donnent les précisions par rapport à ce programme et avec, bien entendu, toutes les informations nécessaires, soit à ce moment-là, ils continuent dans leur cachotterie, mais qui est une cachotterie, je dirais, d'une envergure à caractère international, sinon universel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, même certains d'entre nous, sans vouloir jouer aux complotistes ou quoi que ce soit, mais nous sommes en train de nous poser la question, mais qui nous dit aujourd'hui que le Covid est venu de Chine, et pourquoi il ne serait pas venu grâce à une initiative américaine quelque part, y compris depuis le territoire, à partir du territoire chinois, mais afin de faire des expériences sur une échelle mondiale, et ensuite utiliser d'autres agents ou d'autres produits qui auraient des conséquences néfastes pour le monde entier. Parce que, évidemment, parmi les chercheurs américains, ou en tout cas les politologues, ou ceux qui pensent à l'avenir des États-Unis, on parle tous d'une nouvelle politique malthusienne, c'est-à-dire réduire le nombre de la population mondiale, et certains ont osé dire, c'est-à-dire il fallait exterminer une partie de la population, et de quelle manière, et ça ne peut se faire qu'à travers ce type de moyens-là. Et comme par hasard, alors encore une fois, il y a eu des hasards, les seuls vaccins qui auraient marché, ce seraient les vaccins américains. Je veux bien dire que les Américains sont très doués pour ce qu'on appelle les produits RN messagers, mais que les deux premiers laboratoires qui seraient arrivés à obtenir la réponse au Covid, si tant est qu'on puisse parler de réponse au Covid, parce que aujourd'hui le monde entier sait qu'il n'y a pas de vaccin réel, il y a soi-disant une petite protection qui est assurée, mais on a vendu l'idée qu'il n'y a qu'un seul vaccin qui protège, ce sont les vaccins américains, en l'occurrence Moderna et Pfizer, et à partir de là, nous sommes en droit de nous interroger sur les explications par rapport à la propagation de ce Covid et bien entendu par rapport aux conséquences sur le plan mondial. Et à travers cet exemple-là, nous pouvons imaginer d'autres conséquences avec d'autres agents pathogènes et avec d'autres, bien entendu, possibilités ou capacités pour les Américains d'introduire dans tel ou tel pays en fonction de leurs besoins ou en fonction de ce que eux considèrent comme un danger pour la démographie mondiale, parce que c'est un petit pays, ça reste toujours un petit pays à 300 Merci. Millions d'habitants ou 350 millions d'habitants, mais derrière, il y a un monde qui est constitué de plus de 7 milliards, bientôt 8 milliards d'habitants. C'est ça la question aujourd'hui.
Merci, merci encore, Maître Chamu. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, donc là, il s'agit d'une affaire aux dimensions internationales, une affaire qui ne concerne pas seulement la Russie, mais en effet la planète tout entière. Dans quelle mesure les Américains pourront être, en effet, placés devant leurs responsabilités, répondre, comme disait Maître Chamu, de leurs actions, de leurs activités secrètes, non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres au pays, justement, sur la création de ces armes biologiques.
Alors ça, c'est une bonne question, mais les Américains étant imbus d'eux-mêmes quant à leur mission de civiliser le monde et de mener le monde, si je puis dire, c'est au cœur de leur ADN, si je puis dire, national, ça va être difficile. Moi, je vois que les Nations Unies, par exemple, les agences, les organes chargés justement d'enquêter sur les soi-disant attaques chimiques en Syrie, tout a été politisé. Les Russes avaient mis en avant des éléments visant à complètement mettre à plat et remettre en cause ces allégations. Et aux Nations Unies, la pression a été faite pour que ces éléments soient complètement ignorés. Des menaces physiques avaient même été proférées à l'encontre de l'ancien directeur de l'Agence sur le contrôle des armes chimiques. Donc on peut se poser la question sur la véritable capacité à la structure onusienne actuelle quant à mettre les États-Unis devant leurs responsabilités. Ce faisant, si les organisations et institutions internationales ne sont pas en mesure non seulement de révéler de manière objective l'ampleur des projets auxquels les Américains, au travers de leur ministère de la Défense, semblent avoir participé, et ce depuis très longtemps. Dans le cas de l'Ukraine, on peut dire que l'Ukraine était devenue une base non seulement mafieuse, mais aussi de corruption généralisée, de contrôle de l'extérieur, mais aussi visiblement la base principale pour des opérations de ce type à l'encontre de la Russie. La Russie donc et la Chine devront prendre leurs responsabilités et prendre les mesures adéquates. Quelles seront ces mesures, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés et attendre que l'ONU, si je puis dire, condamne les Américains. Je ne peux pas concevoir que l'ONU sera en mesure de faire cela, sachant que si on prend l'exemple de la Cour internationale pénale, par exemple, on voit par exemple que dans le théâtre afghan, des enquêtes portant sur les exactions commises par les troupes américaines a été classée sans suite, alors que tout de suite et immédiatement, sous l'impulsion de certains lobbies, une enquête a été ouverte concernant les crimes présumés de la Russie en Ukraine. Donc on voit très bien que le système international, institutionnellement parlant, ne marche plus, et c'est ça le gros danger, c'est que lorsqu'on n'est plus en mesure d'avoir un forum pour discuter sérieusement de ce genre de choses, on est sur une pente dangereuse.
Merci, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique depuis Damas, Maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. En Algérie, le président Tebboune a limogé son ministre des Transports. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a limogé de son ministre des Transports, invoquant fait rare pour ce genre d'annonce une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce jour aux fonctions du ministre des Transports, Aïssa Bekaï, pour avoir commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions, a annoncé la présidence algérienne. Sans plus de précision. Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a été chargé d'assurer l'intérim à la tête du ministère des Transports, selon la même source. Aucune indication n'a été fournie de source officielle ni par les médias sur la nature de cette faute grave imputée au ministre. Son limogeage survient au lendemain de l'annonce par le ministère des Transports de plus de 100 vols supplémentaires de la compagnie nationale Air Algérie vers l'étranger à partir du 15 mars après une forte réduction des liaisons aériennes dans le cadre des restrictions en lien avec la pandémie de COVID-19. Le Kenya appelle la communauté internationale à lever les sanctions contre le Zimbabwe. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a appelé la communauté internationale à lever les sanctions contre le Zimbabwe, estimant que ces restrictions nuisaient à ce pays d'Afrique australe. S'exprimant à Nairobi, où il recevait le président zimbabwe Emmerson Mnangagwa, le président Kenyatta a qualifié ces sanctions d'illégales et assuré d'arrêter du soutien constant de Nairobi pour veiller à la levée de ces sanctions. Nous avons continué de souligner notre forte détermination à poursuivre notre de soutien au Zimbabwe contre les sanctions illégales qui ont été imposées à ce pays et qui continuent de provoquer des problèmes, des questions et des difficultés indues pour le peuple du Zimbabwe. Et nous considérons cela injuste, a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue zimbabwéen. Ces difficultés sont créées artificiellement, a déclaré M. Kenyatta, réitérant son appel à la communauté internationale à supprimer ces sanctions économiques illégales qui ont été imposées en 2003 par les pays occidentaux. La communauté d'Afrique de l'Est appelle ses membres à intensifier les mesures de réponse aux maladies infectieuses. La communauté d'Afrique de l'Est, CAE, a appelé jeudi ses membres à intensifier les mesures visant à prévenir et à également répondre aux foyers de maladies infectieuses suite aux fortes pluies qui ont touché certaines parties de la région CAE. Cet appel fait suite aux informations reçues par le secrétariat de la CAE signalant une épidémie de fièvre jaune au Kenya qui a causé la mort d'au moins 3 personnes, ainsi qu'au signalement de foyers de fièvre de la vallée du Rift au sein du bétail de pays membres de ce bloc, selon un communiqué de l'Afrique l'Est, CAE. Les fortes pluies et les températures élevées ont eu pour conséquence un grand nombre de moustiques qui transmettent des maladies à vecteurs, indique Christophe Bazivamon, secrétaire général adjoint de la CAE en charge des secteurs productifs et social. Il a appelé les pays membres de la CAE à signaler de ces foyers à l'Organisation mondiale de la santé OMS et à l'Organisation mondiale de la santé animale OIE comme la situation l'exige. Il a mis en garde que les foyers de FVR pourraient être suivis de cas humain si des mesures adéquates ne sont pas prises à temps. Les femmes sont essentielles à la réussite économique de l'Afrique de l'Est, selon l'EAC. La communauté de l'Afrique de l'Est, EEAC, a déclaré lundi dans un communiqué que les femmes représentaient plus de 50% de la population de l'EAC et étaient donc appelées à jouer un rôle clé dans la réussite économique de la région. Ce communiqué a été publié par le siège de l'EADC à Arusha, une ville touristique du nord de la Tanzanie. Il a indiqué que ses propos avaient été tenus par le secrétaire général de l'EAC, Peter Matuki, au cours de la session inaugurale de la conférence annuelle des femmes, un événement de 2 jours organisé par le secrétariat de l'EAC en collaboration avec l'Institut Tengru pour le développement communautaire d'Arusha à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2022. Il a déclaré que l'article 5 du traité portant création de l'EAC appelait à la promotion de la parité entre les genres dans toutes ses missions et au renforcement du rôle des femmes dans le développement culturel, social, politique et économique et technologique. Nous devons inclure les femmes pour qu'elles participent activement à la prise de décisions au niveau national et régional. Notre but est de garantir que les décisions soient inclusives et reflètent les désirs de l'ensemble de la population, a-t-il conclu. Selon la Banque mondiale, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde. L'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde, la race jouant un facteur déterminant dans une société où 10% de la population possède plus de 80% des richesses, selon un rapport de la Banque mondiale publié mercredi. L'Afrique du Sud, le plus grand pays de l'Union douanière d'Afrique australe, est le pays le plus inégalitaire au monde, se classant au premier rang parmi les 164 pays, a déclaré la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Inégalité en Afrique australe ». De précédents rapports avaient déjà placé le pays à la triste première place du classement. 30 ans après la fin de l'apartheid, la race reste un facteur clé des fortes inégalités en Afrique du Sud en raison de son impact sur l'éducation et le marché du travail, estime la Banque mondiale. L'origine ethnique contribue à hauteur de 41% aux inégalités de revenus et 30% dans l'éducation. L'héritage du colonialisme et de l'apartheid enracinée dans la ségrégation raciale et spatiale, continue à renforcer les inégalités selon le rapport. Le genre joue également un rôle important. Dans la région, les femmes gagnent en moyenne de 30% de moins que les hommes à niveau d'éducation équivalent. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes atteignent 38% en Namibie et en Afrique du Sud. La distribution inégale de terres agricoles est aussi un facteur, notamment dans les zones rurales. En Namibie, 70% des 39,7 millions d'hectares de terres agricoles et commerciales appartiennent toujours à des Namibiens d'origine européenne, souligne la Banque mondiale. Le rapport réalisé avant la crise du Covid-19, qui a aggravé la pauvreté, se fonde sur le coefficient de Gini, indicateur des inégalités de revenus pour classer les pays. Eh bien, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.